Mary, d'un pas lent et triste, marchait à présent aux côtés des porteurs, sans plus tenir aucun compte de la bataille. Il était là et endolori, et ses membres tremblaient comme sous l'effet du froid. Une grosse pluie était montée depuis la mer. Toutes choses semblaient pleurer Théoden et Éowyn, noyant les flammes de la cité sous un déluge de larmes grises. À travers une brume, il vit bientôt approcher l'avant-garde des hommes du Gondor. Imrahil, prince de Dol Amroth, serra la bride à son cheval et s'arrêta auprès d'eux. « Quel fardeau portez-vous, homme du Rohan ? » cria-t-il. « Théoden roi, » répondirent-ils. « Il est mort. » « Mais Éomer roi est parti au front, lui dont le cimier blanc s'agite dans la brise. » Alors le prince descendit de cheval et il s'agenouilla près du brancard pour faire honneur au roi et à son grand assaut. Et il pleura. Et se relevant, il posa les yeux sur Éowyn et resta stupéfait. « Voilà assurément une femme, » dit-il. « Les femmes des Rohirrim sont-elles venues, elles aussi, nous prêter main forte ?»« Non pas, » dirent-ils. « Une seule est venue. C'est la dame Éowyn, sœur d'Éomer. Nous n'en savions rien avant cette heure, et nous le regrettons amèrement. » Alors le prince, voyant sa beauté, bien que son visage fût pâle et froid, lui prit la main comme il se baissait pour la regarder de plus près. « Homme du Rohan !» s'écria-t-il. « N'est-il parmi vous aucun mage guérisseur ? Elle est blessée, peut-être mortellement, mais j'estime qu'elle vit encore. » Et il tint devant les lèvres froides le brassard qu'il portait. Et voici, un nuage de buée se déposa sur le métal bruni, à peine visible. « Il faut faire vite !» dit-il, et il dépêcha l'un des siens dans la cité pour y chercher de l'aide. Mais lui, s'inclinant devant les tombés, leur dit adieu. Et de retour en selle, il s'enfuit à la bataille. Or, le combat devenait furieux sur les champs du Pélénor. Dans l'air montait le fracas des armes, la clameur des hommes et le hennissement des chevaux. Des cors sonnaient, des trompettes claironnaient, parmi les beuglements des Moumakil entraînés dans l'assaut. Au sud de la cité, les hommes du pied de Gondor avançaient contre les légions de Morgul encore massées contre les murs. Mais la cavalerie se porta vers l'est au secours des Homères. Aurin le Grand, gardien des clés et seigneur du Losarnac, et Irluin des collines vertes, et Imrahil le Beau, entouré de tous ses chevaliers. Cette aide n'arrivait pas trop tôt pour les Rohirrim, car la fortune s'était retournée contre Éomer et sa furie l'avait trahi. La violence de sa charge avait entièrement balayé le front ennemi et de grandes pointes de cavaliers avaient pénétré les rangs des Sudrons, surprenant les hommes montés et conduisant les fantassins à leur perte. Mais partout où il y avait des Moumakil, les chevaux refusaient d'aller, renâclant et se dérobant. Et les grands monstres restaient invaincus, tels des tours de défense autour desquelles les Aladrim pouvaient se rallier. Et si les Rohirrim, au commencement de l'assaut, étaient trois fois moins nombreux que les seuls Sudrons, leur situation fut bientôt pire, car de nouvelles forces se mirent à affluer en provenance d'Osgiliath. Là, tenues en réserve pour la mise à sac de la cité et la profanation du Gondor, elles avaient attendu l'appel de leur capitaine. Celui-ci n'était plus. Mais Gothmog, le lieutenant de Morgul, avait décidé de les jeter dans la mêlée. Orientait armée de haches, Variag du Khand, Sudron en écarlate. Et de l'extrême Arad, des mercenaires noirs, mi-hommes, mi-trolls, aux yeux blanchâtres et à la langue rouge vif. Certains se hâtaient à présent derrière les Rohirrim, d'autres se dirigeaient à l'ouest pour contenir les forces du Gondor et empêcher leur union avec le Rohan. Mais au moment où le sort des armes tournait à l'encontre du Gondor et faisait vaciller les cœurs, une nouvelle clameur s'éleva dans la cité. Car c'était le mi-temps du matin, et un fort vent soufflait, et la pluie fuyait vers le nord, et le soleil brillait. Dans cet air limpide, les guetteurs des murs virent poindre au loin une nouvelle menace, et leur dernier espoir s'envola. Car l'Anduin, passé la boucle du Harlond, coulait de telle manière que les gens de la cité pouvaient le voir s'éloigner sur plusieurs lieues, et les plus clairvoyants apercevoir tout navire le remontant. Et regardant par là, ils s'écrièrent consternés. « car ils virent se détacher sur le miroir de l'eau une flotte que le vent amenait. Des dromons et des navires de fort tirant d'eau équipés de nombreuses rames, tous gréés de voiles noires gonflées par la brise. « Les corsaires d'Umbar ! » crièrent-ils. « Les corsaires d'Umbar ! Regardez, les corsaires d'Umbar arrivent ! Le Belphalas est donc pris, l'Éthir aussi, et le Lébénine n'est plus ! Les corsaires sont à nos portes, c'est le dernier coup du destin !»
Et d'aucuns, sans en avoir reçu l'ordre, car nul ne se trouvait dans la cité pour les commander, se ruèrent sur les cloches et firent sonner l'alarme, tandis que d'autres annonçaient la retraite à grand renfort de trompettes.
« Au mur » lançait-il. « Au mur ! Regagnez la cité avant que tous soient submergés !»
Mais le vent qui poussait les navires dispersait tous leurs cris. Les Rohirrim n'avaient en fait aucun besoin d'avertissement. Eux-mêmes ne voyaient que trop bien les voiles noires. Car Éomer n'était plus guère qu'à 1 mille du Harlond, ses ennemis massés en foule entre lui et le port, tandis que de nouveaux adversaires surgissaient sur ses arrières, le coupant du prince. Il regarda alors vers le fleuve, et l'espoir défaillit dans son cœur, et il maudit le vent que d'abord il avait béni. Mais les soldats du Mordor reprirent contenance, et forts d'une soif et d'une fureur nouvelle, ils donnèrent l'assaut à grands cris. Éomer avait retrouvé son sang-froid et sa présence d'esprit. Il fit sonner les cors pour rallier à sa bannière tous ceux qui pouvaient s'y joindre, car il pensait dresser un grand mur de boucliers en dernier ressort. Résister, combattre au corps à corps jusqu'à ce que tous soient terrassés, et accomplir sur le Pélénor des exploits dignes d'être chantés, dût-il ne rester personne dans l'Ouest pour se souvenir du dernier roi de la marche. Il gagna donc une petite éminence verte et y planta sa bannière, et le cheval blanc prit le galop, ondoyant au vent.
Par-delà la pénombre et par-delà le doute, je vis poindre le jour et l'espoir se lever, chantant sous le soleil et dégainant l'épée. À la fin de l'espoir, je m'en fus chevauchant, le jour près de faillir et le cœur de me fendre. À moi, ruine et courroux, à moi, le soir sanglant.
Il proféra ces vers, mais il riait en les prononçant, car la soif du combat le dominait une fois de plus. Et pour lors, il était indemne, et il était jeune. Et il était roi, seigneur d'un peuple redoutable. Mais voici que, se riant du désespoir, il contempla de nouveau les navires noirs et il leva son épée en signe de défi. Lors, la surprise le saisit, de même qu'une grande joie, et il lança son épée en l'air ensoleillé et la rattrapa en chantant. Et tous les yeux suivirent son regard, et voyez, sur le navire de tête, un grand étendard se déployait, flottant au vent, tandis que la nef entrait au Harlond. Un arbre blanc, emblème du Gondor, y fleurissait. Mais il était entouré de 7 étoiles et surmonté d'une haute couronne, les signes d'Elendil que nul seigneur n'avait porté depuis un nombre incalculable d'années. Et les étoiles flamboyaient au soleil, car elles avaient été cousues de gemmes par Arwen, fille d'Elrond. Et la couronne brillait dans le matin, car elle était faite de mithril et d'or. Ainsi vint Aragorn, fils d'Arathorn, Elessar, l'héritier d'Isildur, par-delà les chemins des morts, porté par un vent de la mer au royaume de Gondor. Et l'exaltation des Rohirrim fut un déluge de rires et un éclair d'épée, et la joie et l'étonnement de la cité furent un chœur de trompettes et une sonnerie de cloches. Mais les armées du Mordor se trouvèrent plongées dans la confusion, et ce leur semblait une grande sorcellerie que leurs propres navires fussent remplis de troupes ennemies. Et une peur noire les envahit, car ils savaient que le flot du destin s'était retourné contre eux et que leur ruine était proche. Les chevaliers de Dol Amroth se portèrent vers l'est, refoulant l'ennemi, les hommes trolls, les variags et les orques haïssant la lumière du soleil. Et Homer marcha au sud, et les hommes fuirent devant lui, pris entre le marteau et l'enclume. Car sur les quais du Harlond, on sautait maintenant à bas des navires, et les hommes chargeaient en tempête vers le nord. Légolas était là, et Gimli, armé de sa hache, Albarad portant l'étendard, et Eladan et Elrohir avec des étoiles au front. Enfin, les intraitables Dunedain, coureurs du nord, à la tête d'un grand concours de valeureux du Lébénine, du Lamédon et des fiefs du sud. Mais Aragorn venait en tête avec la flamme de l'ouest, Anduril, tel un feu renouvelé. Narsil retournait à la forge et tout aussi mortel qu'autrefois, et l'étoile d'Elendil brillait sur son front. Éomer et Aragorn finirent donc par se rencontrer au milieu du champ de bataille, et s'appuyant sur leurs épées, ils s'entre-regardèrent et furent heureux. « Ainsi nous nous retrouvons, quand même les armées du Mordor se dressaient entre nous, » dit Aragorn. « Ne vous l'avais-je pas dit à la Ferté-au-Cor ?»«
Certes, » dit Éomer, « mais l'espoir déçoit souvent, et j'ignorais alors que vous étiez doué de prescience. » Mais le secours que l'on n'attendait plus est doublement béni, et jamais il n'y eut de retrouvailles plus joyeuses.
Sur quoi, ils se serrèrent la main.
Ni de plus opportune, reprit Éomer. Vous n'arrivez pas trop tôt, mon ami. Nos pertes sont grandes, et notre peine l'est tout autant.
Vengeons-les dans ce cas avant d'en parler, dit Aragorn. Et de retour en selle, ils partirent ensemble à la bataille. De rudes combats et un long labeur les attendaient encore, car les Sudrons étaient des hommes hardis et implacables, et durs au désespoir, et les Orientais, forts et aguerris, ne demandaient aucun quartier. Or donc, un peu partout, devant la grange ou la maison en cendres, sur l'éminence ou sur la butte, contre le mur ou dans les champs, ils continuaient de s'unir et de se rallier, et ils combattirent jusqu'à ce que le jour se mît à décliner. Puis le soleil passa enfin derrière le mine d'Oluin, embrasant le ciel tout entier, de sorte que les montagnes et les collines parurent teintées de sang. Le fleuve prit la couleur du feu, et l'herbe du Pélénor s'étendait, rouge, dans le crépuscule. Alors prit fin la grande bataille des champs du Gondor, et dans toute l'enceinte du Ramas ne resta plus un seul ennemi vivant. Tous avaient été tués, sauf ceux qui avaient fui pour aller mourir ailleurs, ou se noyer dans l'écume rouge du fleuve. Rares sont ceux qui rentrèrent jamais dans l'Est, à Morgul ou au Mordor, et au pays des Aladrim ne parvint qu'un récit lointain, une rumeur du courroux et de la terreur du Gondor. Aragorn et Éomer et Imrahil revinrent à cheval vers la porte de la cité, recrues au-delà de toute joie ou affliction. Tous trois étaient indemnes, car telle était leur fortune, et à plus forte raison, la puissance et l'adresse de leurs armes. Bien peu, en vérité, avaient osé les affronter ou les regarder en face à l'heure de leur courroux. Mais beaucoup d'autres avaient été blessés, mutilés ou tués sur le champ de bataille. Forlong était tombé sous les haches en combattant, seul et démonté. Et Duilin du Morthond, ainsi que son frère, avaient été piétinés à mort dans l'assaut contre les Moumakil, s'approchant avec leurs archers pour tirer dans l'œil des monstres. Ni Irluin le Beau ne retournerait à Pinath-Gelin, ni Grimbold à Grimslad, ni Albarad dans les terres du Nord, l'intraitable coureur. Nombreux furent les tombés, obscurs ou renommés, soldats ou capitaines. Car ce fut une grande bataille, et aucun récit n'en fit jamais le détail. Ainsi parla, longtemps après, un trouvère du Rohan, dans sa chanson des tertres de Munebourg. On a chanté le cri des corps dans les collines, la fureur des épées, le flamboiement des lances. Au royaume du sud, d'une longue foulée, partirent les coursiers au pays de la pierre. Tel le vent au matin, la guerre s'allumait. Là tomba Théoden, digne fils de Thengel, à ses halles dorées et ses verts pâturages, dans la plaine du Nord jamais plus ne revint, lui grand seigneur de Lost, Lord Harding et Gutlaf, Dunher et Deorwin, aussi le preux Grimbold, Horn et Erefara et Rubrand et Fastred, en un pays lointain par les armes périr, sous le triste terreau des tertres de Munebourg. Ils gisent à jamais aux côtés de leurs frères et compagnons de guerre les seigneurs du Gondor. Ni Irluin le Beau à ses collines vertes, ni Forlong l'Ancien dans les vallées fleuries, de son pays d'Arnac jamais plus ne devait revenir en triomphe, ni les deux grands archers, d'Héruffin d'Huilin au lac de leur demeure, sombres eaux du Morthond à l'ombre des montagnes. La mort au matin gris et à la fin du jour, tous ensemble les pris, les seigneurs et les humbles. Là, ils dorment encore et longtemps vont dormir,
sous l'herbe du Gondor sur les bords du grand fleuve. Gris-argent aujourd'hui tel un torrent de larmes, rouge il roulait alors ses larmes rugissantes. Une écume de sang dans le soir incendié, funèbre embrasement aux fêtes des montagnes. Rouge était la rosée sous le ramasse écorce.